Victor Chevrillon, vous publiez Les routes du Cachemire aux éditions François Bourin. Les routes du Cachemire, c'est vrai que le Cachemire s'est, on va dire, démocratisé depuis quelques années. Mais derrière ces écharpes et puis ces pulls ou ce que l'on voit dans les magasins, il y a toute une industrie et une filière. Une route du Cachemire qui nous mène jusqu'aux steppes de Mongolie, les usines chinoises. Ça, on s'en doutait un peu, mais j'ignorais qu'il y avait aussi l'Écosse et l'Italie.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce produit qu'on connaît parce qu'il est dans nos étagères, en fait, on se rend compte qu'on ne le connaît pas très bien. Moi, c'est ça qui m'a poussé, en fait, à entreprendre un peu cette enquête, à avoir cette démarche. On ne sait pas du tout ce qui se cache derrière l'étiquette Cachemire, derrière ce produit. Et effectivement, on se rend compte que quand on remonte la chaîne, ce que j'ai voulu faire en allant vraiment sur le terrain, le Cachemire nous emmène, comme vous l'avez dit, tout d'abord en Mongolie, là où, en fait, on trouve 90% de la matière qui vient de Mongolie et de Mongolie intérieure en Chine. Donc, c'est là qu'on trouve les chèvres qui produit cette matière, mais également dans les usines chinoises, comme souvent dans le textile et dans ce genre de produits, mais également donc en Italie, en Écosse. En fait, on retrouve le Cachemire dans des pays qui ont des traditions textiles. L'Écosse, en fait, qui produit du Cachemire depuis plus de 200 ans, il y a vraiment certaines maisons historiques qui ont, depuis la révolution industrielle, depuis le début du 19e siècle, qui produisent du Cachemire. Et l'Italie, qui s'est mise à faire du Cachemire un peu plus tardivement, plutôt après, dans l'après-guerre. C'est un peu toutes ces géographies-là qui sont impliquées dans cette industrie du Cachemire.
Alors, qu'est-ce qui fait que le Cachemire aujourd'hui s'est, je vous disais, démocratisé tout à l'heure, mais on en trouve à des prix abordables. Alors, évidemment, c'est probablement un peu, peut-être pas le Cachemire pur chèvre, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cet engouement et que ça s'est passé de l'industrie du luxe à une industrie un peu plus populaire?
Alors, il y a plusieurs choses qui ont joué. Tout d'abord, historiquement, un déclencheur assez important, ça a été la chute de l'URSS. Parce que la Mongolie, qui était dans le giron de l'URSS, qui était un pays satellite, à la chute de l'URSS, s'est vu, en fait, ils ont enlevé toutes les régulations qu'ils avaient sur les troupeaux, sur l'agriculture, et il y a eu un effet qui a fait que les nomades, donc qui élèvent ces chèvres, ont pu augmenter leurs troupeaux et ont cherché, pour maintenir un peu leur niveau de vie, pour pas trop sombrer dans la pauvreté, c'était une période difficile, ont fait exploser le nombre de chèvres. Et donc, depuis les années 90, on a vu une explosion du nombre de chèvres qui continue encore aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un premier effet. Après, il y a également, on retrouve un peu la Chine qui s'en mêle, c'est qu'à partir des années, on va dire, 80 puis 90, la Chine s'est mise à produire massivement également du Cachemire. Et donc, ces deux effets-là qui ont un peu joué comme déclencheurs de cette explosion du Cachemire, après ont été suivis par ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des méthodes de fast fashion, une carte un peu la carte du coût du travail un peu qui se calque sur les endroits où on se met à produire du Cachemire. Et donc comme j'explique un peu dans le livre, après il y a énormément d'éléments qui vont permettre d'expliquer les prix qui baissent avec plein de manières de jouer sur la qualité. Mais c'est intéressant de voir, en fait, que c'est vraiment là dans les années 80 et 90 qu'on a vu l'explosion. C'est le point de départ un peu de cette démocratisation du Cachemire.
Alors, les élevages sont plus ou moins importants. Je crois que j'ai noté qu'il y avait la moyenne était autour de 300 chèvres, ce qui n'est pas énorme. Ouais. Mais il y a des élevages qui sont beaucoup plus importants. Est-ce qu'on arrive aussi là dans une forme d'élevage intensif?
Il y a des fermes d'élevage, entre guillemets. Il y a des élevages qui peuvent être vus comme un peu intensifs. Là, en l'occurrence, en Mongolie, on ne peut pas vraiment parler d'élevage intensif parce que, dans la plupart des cas, il faut voir que ce sont des nomades, donc ce sont des bergers qui vivent dans des yourtes et qui ont leurs troupeaux, qui vont faire paître dans les steppes. Donc on est quand même, quand on parle d'élevage intensif, on a cette idée d'espèces de fermes en batterie, d'animaux en cage, etc. On est en grande majorité assez loin de cette image-là. On est dans le milieu des steppes où on a des kilomètres et des kilomètres devant soi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on commence véritablement à avoir une surconsommation de Cachemire et donc une surpopulation de chèvres. La population de chèvres a explosé au cours de ces dernières années et c'est à cause de ça qu'on commence à avoir véritablement les problèmes que pose cette industrie du Cachemire, ce qui est lié directement en fait au nombre de chèvres parce que les chèvres donc, qui sont dans la steppe et qui mangent, qui broutent l'herbe, depuis quelques années, se sont mis en fait à. On a un effet de surpâturage. Et donc les chèvres font progresser le désert. En fait, c'est dû à un petit détail qui a son importance, c'est que les chèvres, quand elles mangent l'herbe, elles arrachent la racine avec, là où d'autres animaux vont couper l'herbe. Et donc l'herbe a plus de mal à repousser derrière. Et donc on a une désertification, et derrière il y a toute une série de conséquences à ce problème écologique. Mais effectivement, cet élevage qui a vraiment explosé en Mongolie et en Mongolie intérieure, sans forcément toujours sans pouvoir parler véritablement d'élevage intensif, est véritablement la cause des problèmes principaux que cause l'industrie du Cachemire aujourd'hui.
Oui, à la fois environnemental et puis peut-être aussi économique, parce que ça, l'environnement a forcément d'autres impacts économiques, je suppose.
Et tout à fait, tout à fait. Bah, on voit aujourd'hui la Chine en fait est très consciente de ses problèmes écologiques et est en train de mettre tout en place pour essayer de les endiguer. En fait, la Chine qui avait été un peu la première à vraiment aussi faire. Alors, quand je parle de la Chine, c'est donc la Mongolie intérieure, hein, c'est historiquement la Mongolie, mais où ils avaient également fait exploser le nombre de chèvres depuis quelques années. Ils se rendent compte des problèmes que ça cause. Ils ont des tempêtes de sable qui soufflent sur Pékin. Ils ont des véritables problèmes liés à cette désertification. Et ils sont déjà en train d'essayer de mettre tout en place pour endiguer cet effet-là. Déjà, ils ont mis des mesures drastiques sur les éleveurs. Donc, contrairement aux nomades mongols, les éleveurs en Chine sont sédentarisés. La Chine a mis des clôtures sur la steppe, des kilomètres et des kilomètres de grillage, et avec des règles extrêmement drastiques. Et puis, elle a commencé à planter ce qu'on appelle la grande muraille verte, c'est-à-dire des millions et des millions d'arbres pour essayer d'endiguer cette progression du désert. Donc, effectivement, il y a des conséquences, et la Chine a commencé à s'en rendre compte. Le gouvernement mongol, en revanche, mais pour l'instant, est encore assez lent pour endiguer ce phénomène.
Alors comment, entre tradition et modernité, les éleveurs ont basculé?
Alors ça, effectivement, c'est extrêmement intéressant parce que on se rend compte en fait en allant sur place. Moi, donc j'ai passé pas mal de temps avec les nomades dans les steppes. Il faut voir vraiment que on vit dans des yourtes avec des troupeaux. Donc on est vraiment dans un système qui est complètement traditionnel et ancestral. Mais paradoxalement, on voit des touches de modernité qui rentrent dans ce monde un peu traditionnel. Les nomades sont tous avec leur téléphone portable, ils se donnent des informations, voilà, ils ont la 4G qui passe parfois dans le désert. Les chevaux ont été remplacés par des motos. Donc il y a énormément d'éléments qui font que le mode de vie traditionnel nomade se modernise. Et ce qui est paradoxal, c'est on se rend bien compte quand on leur parle, c'est qu'à la fois il regrette un peu le fait que voilà que ce mode de vie traditionnel se perde, mais en même temps ce sont les premiers à appeler cette modernité. Et en même temps il faut les comprendre, hein, vivre pendant l'hiver dans le désert de Gobi avec moins 40, c'est pas joyeux tous les jours. Et la plupart des jeunes en ont un peu marre de rester pendant le froid du désert et vont rejoindre les villes, voilà s'ouvrir un peu plus à des modes de vie un peu plus modernes, un peu plus occidentalisés. Mais ce qui est effectivement paradoxal, et on voit quand on les rencontre, c'est que ce sont parfois les mêmes personnes qui, avec une sorte un peu de dissonance cognitive, appellent à la fois le retour aux valeurs ancestrales et puis à plus de modernité à certains moments.
Alors je suppose que là aussi, sur le plan économique, le marché, peut-être même les marchés, ont explosé.
Ah oui, ça va, ça tout à fait. On a aujourd'hui le marché du Cachemire, ça va être à peu près, il va atteindre plus de 3 milliards de dollars dans les années qui viennent, et on produit à peu près 20 000 tonnes de Cachemire. Donc ça a doublé par rapport à une dizaine ou une quinzaine d'années où on était plutôt autour de 10 000 tonnes. Là, on est à 20 000 tonnes. Le marché a complètement explosé. Et c'est d'ailleurs, moi, c'est un peu ce constat qui m'avait poussé à creuser un peu ce sujet, c'était de se rendre compte que le marché a complètement explosé. On est passé vraiment d'une filière à une industrie, et le produit a complètement évolué aussi, et on est passé d'un produit qui était un produit de luxe à véritablement un produit de grande consommation. Et c'est pour ça que j'ai voulu essayer de comprendre ce qui a fait exploser ce marché, ce qui a fait se transformer ce produit, et comment on a pu arriver à mettre autant de produits sur le marché quand il y a quelques années on parlait uniquement de nos précieux pulls qui venaient d'Écosse ou vraiment ce produit de luxe.
Alors justement, luxe, qui dit luxe dit contrefaçon aussi, doit dire trafic également et peut-être contrebande.
Oui, alors effectivement, dans cette face un peu plus sombre de l'industrie du Cachemire, on a une part importante de fraude. On estime à peu près à un tiers le nombre de Cachemire vendus qui seraient sujets à de la fraude. Alors, la fraude, ça peut recouvrir un peu plusieurs facettes, mais par exemple, très simplement, ça peut être, on vous vend un pull en Cachemire qui en fait n'en est pas, ça va être de la laine de chameau, de yak ou d'autres choses. Donc ça, c'est le plus, on va dire, le plus flagrant, c'est si on vous vend quelque chose qui est complètement autre chose. Mais après, ce qui peut être plus fréquent, c'est de vous donner des proportions, parce que souvent les pulls vont être des mélanges. On vous met un peu, voilà, moitié coton, moitié cachemire, par exemple, et on va vous indiquer les mauvaises proportions. Alors, ce qui est compliqué, c'est que la réglementation n'est pas forcément toujours très claire dessus. Il y a des marges d'erreur qui sont autorisées, et donc voilà. Le fait est qu'aujourd'hui, on détecte encore beaucoup de fraude. Entre des produits qui contiennent même parfois pas de cachemire, parfois les mauvaises proportions. Et sur les étiquettes également, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de label cachemire. Aujourd'hui, il y a parfois même des revendeurs qui ne sont pas foncièrement malhonnêtes, mais qui profitent d'une confusion entre des différentes appellations ou des différents termes pour vendre toute autre chose que du cachemire. On a même parfois à retrouver des poils de rat dans des produits en cachemire, donc c'est-à-dire ce qu'on peut parfois trouver.
Alors l'avenir du Cachemire, c'est exponentiel, c'est stable.
Ça ne pourra pas être exponentiel parce que on a un produit qui est, on pourra produire uniquement une certaine quantité de cachemire. Aujourd'hui, en fait, la contrainte qu'on a, et c'est ce qui provoque cette désertification, c'est que la chair ne peut pas être, on ne peut pas produire ce cachemire partout. Aujourd'hui, elle vit dans certains climats, dans certaines géographies, dans le désert de Gobi où on a des différences de température entre plus et moins 40, ou sur les contreforts de l'Himalaya, mais on a moins de surface véritablement. Donc, on a un espace limité. Les tentatives pour acclimater cette chèvre ailleurs ont été en général soldées par des échecs. Donc, aujourd'hui, la raison pour laquelle on a ces problèmes, c'est parce qu'on essaye de mettre toujours plus de chèvres sur un espace qui est limité. Donc, on peut raisonnablement espérer, ou en tout cas douter que ça puisse, enfin, espérer que ça ne soit pas exponentiel, ou douter que ça puisse le devenir. Mais en fait, si ça continue encore un petit peu à progresser, ce qu'on va observer, c'est la tendance actuelle, c'est une détérioration de la qualité. Aujourd'hui, une des raisons pour laquelle cette quantité de cachemire produite et le marché augmente, c'est que les éleveurs se mettent à essayer de croiser leurs animaux avec des chèvres qui vont produire un cachemire d'un peu moins bonne qualité, mais en plus grande quantité, un peu plus épais. Et donc, plus on va augmenter cette quantité, plus on va avoir une politique de quantité, plus on va détériorer la qualité. Qu'on pourrait espérer pour on va dire, la noblesse de cette matière et pour le marché. En tout cas, c'est ce qu'appellent les maisons qui sont un peu impliquées dans la beauté du produit et ceux qui sont impliqués dans le développement durable, c'est de faire en sorte qu'on essaye de réduire un peu la quantité de cachemire, mais d'en améliorer la qualité, ce qui permettrait de maintenir un niveau de vie stable pour les éleveurs, mais en essayant de réduire l'impact de ce produit sur l'environnement.
Est-ce qu'il y a un type de chèvre particulier pour le Cachemire?
Oui, alors en fait, il y a certaines chèvres. Alors, ce n'est pas une espèce précise, mais on va dire que c'est un ensemble de sous-espèces. Il y a parfois des croisements, mais globalement, il y a une catégorie de chèvres qui va donner un petit duvet un peu plus fin sous son poil permanent qu'elle va développer en hiver et qu'elle va perdre au printemps. Donc, c'est pour se protéger des froids extrêmes qu'on va avoir dans l'Himalaya, dans le désert de Gobi, dans les steppes mongoles. Et donc, ce fin duvet qu'elle va perdre au cours de la nuit de printemps est récupéré par les éleveurs, et c'est ça qui va permettre de donner le cachemire. Donc, ces chèvres, on les trouve en Mongolie, on les trouve dans certaines régions chinoises, en Asie centrale. De manière très marginale, on en trouve dans d'autres pays, en Afghanistan, en Iran, parfois en Nouvelle-Zélande, quand elles ont pu être apportées là-bas, mais vraiment, comme je disais, 90% de la matière vient de Mongolie et de Chine.
Est-ce que ces chèvres, elles servent à autre chose, elles sont recyclées pour la viande, par exemple, ou
Oui, alors, et c'est justement le sujet d'une des critiques qu'on apporte à cette industrie du Cachemire, c'est que ces chèvres, alors, déjà, les chèvres pour les nomades, elles sont au cœur de tout. Elles permettent de produire du cachemire, effectivement, mais les nomades vont les traire pour faire du lait. À partir du lait, ils font des fromages et tout un tas d'autres produits qui sont dérivés de ce lait. Ils vont utiliser les peaux, ils vont utiliser également la viande. Alors, aujourd'hui, les chèvres, en fait, qui sont devenues trop vieilles, dont la qualité du cachemire se dégrade, vont être vendues pour de la viande. Et c'est un peu le sujet des images qu'on a pu voir récemment par l'association PETA, qui avait dénoncé en fait les maltraitances animales de l'industrie du Cachemire. Souvent, une partie des images qu'on voyait où les chèvres étaient maltraitées, c'était véritablement des images qui pouvaient être assez choquantes. Souvent, ça se passait effectivement dans les abattoirs, là où en fait les personnes qui reçoivent ces chèvres ne sont pas les éleveurs, ne les ont pas côtoyées et ont un attachement beaucoup plus, enfin bien moindre aux chèvres. Et on avait des images qui pouvaient être effectivement assez choquantes. Mais donc la chèvre effectivement est à la base de l'industrie du Cachemire, d'une industrie de la viande, du lait, et c'est vraiment à la base d'énormément de choses pour l'industrie mongole. Il faut voir que le Cachemire, c'est la deuxième industrie, c'est la première industrie qui n'est pas, qui n'est pas de l'industrie lourde, parce que la Mongolie dépend des mines énormément, et après le Cachemire. Donc vraiment, ces chèvres sont à la base de toute une économie pour ces populations qui en dépendent énormément.
Victor Chevrillon, donc après cette enquête, cette longue enquête sur la route du Cachemire, quelle, je peux pas dire leçon, mais qu'est-ce que vous en déduisez?
La principale chose à retenir pour moi, c'est que, en fait, il n'y a pas de recette magique. On ne va pas pouvoir continuer à produire des pulls en cachemire à 50 euros ou à 100 euros qui respectent l'environnement, les travailleurs, le produit lui-même. Au fil, en fait, de cette enquête, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de maillons. Il y a le produit, la matière première. Donc la fibre, il y a les travailleurs, il y a plein d'étapes de transformation. À toutes ces étapes-là, on peut faire des compromis. On peut essayer de dire bah ça sera un peu de moins bonne qualité, mais je vais faire des économies à cet endroit-là. Le moindre compromis qu'on fait va entacher le produit, va l'endommager. Et donc au final, si on arrive à avoir des produits à ce prix-là, c'est parce qu'on a fait des concessions sur la qualité, sur le bien-être des travailleurs ou sur l'environnement. Et donc moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que le vrai problème de cette industrie, et c'est le cas sur l'industrie textile de manière générale, c'est ce qu'on appelle la fast fashion. En fait, c'est le fait de produire des produits toujours moins chers, de moins bonne qualité, des produits qui sont jetables. Un pull en cachemire, il y a quelques années, ça durait 20 ans. On récupère encore les pulls en cachemire de ses grands-parents qui étaient d'extrêmement bonne qualité. Aujourd'hui, un pull à 50 euros, il va vous durer une saison ou deux et après, il est jetable. Donc, en fait, c'est véritablement ça le problème. L'industrie du cachemire en elle-même peut faire des très belles choses. C'est pas un problème en soi de produire du cachemire, qui est une très belle matière. Les Mongols sont capables de le faire de manière très respectueuse des chèvres et de l'environnement, comme ils l'ont fait pendant longtemps, avant cette explosion. Mais maintenant, on a vraiment, une industrie qui est menée par cette stratégie de quantité au détriment de la qualité. Et c'est véritablement le problème principal qu'on voit dans cette industrie.
Merci Victor Chevrillon de nous avoir entraînés sur les routes des steppes de Mongolie, sur ce Cachemire qui fait rêver finalement. Mais je pense que l'on aura l'occasion de regarder les étiquettes un peu différemment lorsqu'on les verra dans les magasins. Ce livre est
Tout
publié
à
aux
fait.
éditions François Bourin. Merci beaucoup.
Merci à vous.